Le 18-20 de France Inter ouvre ses portes, bienvenue sur la planète et sa banlieue. Comme chaque soir, le premier journal du soir dans le 18-20 est présenté par Hélène Roussel. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
L'essentiel de ce jeudi commence avec des prévisions de l'INSEE, des indicateurs au vert pour la France jusqu'à la fin de l'année. On parle de croissance, de pouvoir d'achat qui vont mieux, mais aux surprises, le mouvement des gilets jaunes a même eu un effet positif sur notre économie. Et sinon Hélène?
Le tueur de la gare de Perpignan, Jacques Ranson, avoue un troisième meurtre. La justice à Londres suspend les ventes d'armes aux Saoudiens. Des élus pro-migrants menacés de mort en Allemagne. Une vidéo choc encore de la L214, du foot mondial féminin. Enfin un gros match pour les Américaines, les Suédoises sur la pelouse du Havre ce soir. Et puis des arbres centenaires déracinés, un clocher effondré, l'orage passé repasse. Météo complète avec Élodie Calac à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde. Ce soir, nous rendons hommage aux journalistes assassinés ou empêchés dans le monde parce qu'ils dérangent. C'est ce que fait Forbidden Stories, un consortium de journaux et de journalistes auquel appartient la cellule d'investigation de Radio France. Nous irons à la fois en Tanzanie, au Guatemala, en Inde, finir des histoires commencées par des journalistes assassinés. Ce soir, nous sommes aussi à Bangui pour parler cinéma, figurez-vous. Et puis 19h20, le téléphone sonne, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les années Pompidou, 50 ans après l'accession au pouvoir de Pompidou, colloque, hommage, expo, de quelle nostalgie parle-t-on d'une France où on vivait clope au bec, où on ne s'occupait pas effectivement des particules fines qui émanaient des 204 breaks, mais une France quoi? Plus heureuse, sans chômage de masse, une France après laquelle, visiblement, on court aujourd'hui. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 45 24 7000.
France Inter.
Les gilets jaunes ont donc fait du bien à l'économie et à la croissance.
Oui, c'est inattendu, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant bien ce qui ressort de la note de conjoncture de l'INSEE. Il y a une augmentation du pouvoir d'achat spectaculaire. C'est même du jamais vu depuis 12 ans. Bonsoir Manuel Ruiz.
Bonsoir.
Les gilets jaunes, avec tout leur samedi de manifestation, n'auraient donc pas plombé l'économie comme certains le prédisaient. Le mouvement a même des conséquences positives.
Mais oui, et on doit ça surtout aux mesures d'urgence, les annonces d'Emmanuel Macron en décembre dernier. Des mesures qui ont boosté le pouvoir d'achat, donc la consommation des ménages et ainsi soutenu la croissance. Des mesures, souvenez-vous, sur les heures sup, la CSG des petites retraites, la revalorisation de la prime d'activité, mais aussi, rappelle Julien Pouget de l'INSEE, cette prime exceptionnelle exonérée de charges accordée par certains employeurs.
Elle a représenté plus de 2 milliards d'euros, 2,2 milliards d'euros, qui ont été versés au premier trimestre à quelques 4,8 millions de salariés du privé. Donc cette prime, elle a effectivement contribué à faire augmenter le salaire moyen du premier trimestre et donc le pouvoir d'achat.
Et puis donc, alors qu'on nous annonçait déjà une croissance en berne à cause des blocages à répétition du samedi après-midi, eh bien les conséquences sont très limitées.
L'impact du mouvement des gilets jaunes, il a pu être assez sévère au niveau local, au niveau sectoriel. L'impact macroéconomique, donc quand on fait la somme, a été d'ampleur relativement modérée, voire limitée. Notre estimation était de l'ordre de 0,20 points de PIB en moins. Effectivement, ça serait à peu près l'ampleur sur la croissance.
Voilà, la croissance qui s'établirait à 1,3% fin 2019. Pas de quoi pavoiser, mais ce sera toujours légèrement supérieur à celle de la zone euro.
Manuel Ruffez, merci. Dans cette note de l'INSEE, on retiendra comme autre indicateur au vert le chômage qui devrait continuer à baisser avec 240 000 créations d'emplois d'ici la fin de l'année. Les espoirs de voir fonctionner l'EPR de Flamanville l'année prochaine ont été atomisés. Ordre de l'autorité de sûreté nucléaire, il va falloir réparer 8 soudures, difficile d'accès en plus sur le chantier de cette centrale nouvelle génération. Et là, rien de possible, répond EDF, avant au moins 2022. On en oublie que l'EPR devait être à l'origine mis en service en 2012. Depuis, des accidents, des retards, des anomalies sur la cuve. On ne compte plus ni les galères, ni les années, ni les euros. Quelles conséquences sur la transition énergétique? C'est ce que nous racontera Célia Kiret tout à l'heure dans le journal de 19h.
Le tueur de la gare de Perpignan, Jacques Ranson, avoue un troisième meurtre.
Oui, avec tous les détails. Il a enlevé, frappé, violé, étranglé. Des réponses 33 ans après le meurtre d'Isabelle Ménage à Villers-Bretonneux dans la Somme, près d'Amiens. Jacques Ranson, déjà condamné pour le viol et le meurtre de deux femmes à la gare de Perpignan à la fin des années 90. Récit avec Élodie Touchet de France Bleu Picardie.
Son tout premier meurtre, selon Jacques Ranson, qui a donc fini par craquer, le Picard de 59 ans, reconnaît avoir tué Isabelle Ménage. Il aurait même donné de nombreux détails, selon la substitut du procureur d'Amiens, présente à Béziers. Jacques Ranson explique avoir enlevé la jeune femme de 20 ans le 28 juin 1986, alors qu'elle faisait du stop pour rejoindre le Pas-de-Calais. Il l'aurait frappée, violée, étranglée et abandonné son corps dans un bois. Une seconde autopsie pratiquée en 2018 sur le corps de l'informaticienne a confirmé des mutilations génitales infligées post-mortem. Un mode opératoire similaire à celui des deux jeunes femmes tuées à Perpignan. Deux meurtres commis à la fin des années 90 et pour lesquels Jacques Ranson a été condamné l'an dernier à la prison à perpétuité. C'est lors de ce procès que la famille d'Isabelle Ménage a fait le rapprochement et obtenu que l'enquête soit rouverte 33 ans après la mort de la jeune femme.
Des aveux, autant dire inespérés pour la famille. En 92, 6 ans après le meurtre d'Isabelle Ménage, l'enquête avait même abouti à un non-lieu, rouverte l'an dernier donc par le procureur d'Amiens. L'avocate de la famille, maître Carole Herman.
On a pensé à Jacques Ranson qu'on a avancé sur le dossier quand on a pu disposer de la photographie de la scène de crime, ou en tout cas de la découverte du corps d'Isabelle Ménage, et c'est ce qui nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait des similitudes. Les membres de la famille d'Isabelle Ménage sont un peu bouleversés aujourd'hui parce qu'on leur amène une réponse. Imaginez 33 ans de leur vie sans avoir de réponse et tout d'un coup, un jour, ça tombe de cette façon-là. Et puis, surtout, sur une personnalité dont on connaît les actes, Internet en est rempli. C'est un bouleversement dans leur vie, mais plus vite le procès sera fixé, mieux ce sera pour eux. Et ils sont dans l'attente de se confronter à lui, évidemment.
L'avocate Carole Herman, jointe par France Bleu Picardie. C'est encore un tournant dans l'affaire Vincent Lambert. Depuis le 20 mai, sur ordre de la Cour d'appel de Paris, ce tétraplégique en état végétatif depuis 11 ans est maintenu en vie. Mais pour combien de temps? Car voilà le procureur général de la Cour de cassation, François Molins, qui préconise à présent de casser cette décision. La Cour de cassation se réunit lundi prochain et pourrait bien donc à son tour décider un nouvel arrêt des traitements. Quand Londres donne l'exemple, Londres qui va arrêter de vendre des armes aux Saoudiens, ou plutôt qui va suspendre tous les nouveaux contrats attribués à Riyad, car ces armes, on le sait, peuvent être utilisées dans la guerre contre le Yémen et c'est illégal, a tranché la justice britannique cet après-midi. Marina Darras est à Londres pour France Inter.
C'est une procédure qui avait commencé en 2015. L'ONG Campagne contre le commerce des armes avait décidé de saisir la justice britannique pour obtenir la suspension des ventes de bombes et d'avions de chasse vers l'Arabie Saoudite. L'organisation reproche au gouvernement de fournir des armes qui peuvent être utilisées au Yémen puisque l'Arabie Saoudite y est militairement engagée auprès d'une coalition régionale en soutien aux forces pro-gouvernementales et opposées aux rebelles houthis. Selon l'ONG, le gouvernement britannique s'est donc rendu coupable de violations graves et répétées du droit humanitaire international en fournissant des armes à cette coalition. D'après le juge, cette décision ne signifie pas que les licences d'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite doivent être immédiatement suspendues, mais un examen plus approfondi doit être fait pour étudier l'utilisation de ces armes. Le gouvernement britannique, quant à lui, veut faire appel de cette décision, mais a toutefois décidé qu'il n'accorderait pas de nouvelles licences de vente d'armes à l'Arabie Saoudite et à ses partenaires de la coalition. À Londres, Marina Darras pour France Inter.
On reste de l'autre côté de la Manche. Boris Johnson, un peu plus près des étoiles. Le Brexiteur est arrivé largement en tête. 4e tour de scrutin au sein du groupe parlementaire conservateur pour désigner le successeur de Theresa May. L'ancien ministre des Affaires étrangères devance le ministre de l'Environnement, Michael Gove, et l'actuel chef de la diplomatie, Jeremy Hunt. On connaîtra les deux finalistes ce soir, ceux qui seront ensuite soumis au vote des militants. Pas d'évidence, pas de consensus sur le nom du futur président de la Commission européenne. Quel visage pour succéder à celui de Jean-Claude Juncker. Les dirigeants de l'Union européenne sont réunis en ce moment à Bruxelles. Pour eux, en revanche, les négociations s'est terminées. Renault et Nissan ne sont plus fâchés. Le premier accepte de voter pour une gouvernance japonaise mardi prochain à l'Assemblée générale. Le deuxième a visiblement donné suffisamment de gages pour une meilleure représentation française dans ses comités d'administration.
Il est 18h presque 9 sur France Inter. Militer pour une politique d'accueil aux migrants en Allemagne devient risqué.
Au moins 2 maires allemands ont reçu des menaces de mort. Quelques jours seulement, on s'en souvient, après le meurtre d'un élu pro-migrant, poignardé sans doute par un sympathisant néo-nazi. Correspondance à Berlin, Nathalie Versieux.
2 maires ont reçu des menaces. Henriette Recker, maire de Cologne, blessée au couteau par un sympathisant de l'extrême droite en 2015, a reçu une lettre de menace. Tout comme Andreas Holstein, le maire de la petite ville de Rhénanie-Altena. Andreas Holstein, dont la ville de 17 000 habitants est présentée comme modèle pour l'accueil des réfugiés, avait lui aussi déjà été attaqué au couteau fin 2017. Selon plusieurs observateurs, l'échec relatif du parti d'extrême droite AFD en recul lors des élections européennes par rapport aux législatives de 2017 expliquerait les tensions actuelles, les partisans de l'action violente constatant que la voie légale ne permettrait pas de mettre fin à la démocratie haïe et accusée d'accepter, je cite, une invasion musulmane. Cette fange violente de l'extrême droite aurait décidé de passer à l'acte en optant pour la lutte armée. Nathalie Versieux, Berlin pour France Inter.
Toujours un cran de plus dans les tensions entre Téhéran et Washington. Ce matin, l'Iran affirme avoir abattu un drone espion américain qui avait violé son espace aérien dans le sud du pays, confirmé un peu plus tard par les États-Unis. Un détenu a attaqué deux surveillants ce matin à l'ouverture de sa cellule au Havre. Il a frappé avec un pied de table en fer et des morceaux de verre en criant à la Wakbar. Placé depuis en quartier disciplinaire, la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Le jeune homme était déjà condamné pour association de malfaiteurs terroristes après s'être rendu en Syrie. Ce matin, les surveillants de la prison du Havre ont exercé leur droit de retrait. Vous vous êtes peut-être réveillé ce matin avec ces images choc en tête, comme toujours avec l'association L214. Nouvelle vidéo tournée cette fois dans un centre de recherche en nutrition animale, propriété de l'entreprise Sanders. Des hublots sur l'estomac des vaches, des cochons blafards, des poules qui ne peuvent plus marcher. Brigitte Gauthier, la porte-parole de l'association, était l'invitée de Bruno Duvic à 13h tout à l'heure.
Il s'agit d'une mutilation, tout simplement. On a percé un trou dans le flanc des vaches pour accéder directement à un de leurs estomacs. Les opérateurs peuvent déposer des échantillons dedans, venir les reprélever. Donc c'est un accès direct à l'estomac de ces vaches qui sont encore vivantes.
Pourquoi fait-on cela ?
Les recherches sont sur les aliments qu'on leur donne et comment on va pouvoir les faire produire toujours plus. Donc on optimise les animaux et ça, ça a des conséquences sur leur santé. On le voit dans les élevages, dans les autres images qu'on a pu montrer, avec des boiteries sévères par exemple, des infections, des problèmes cardiaques ou pulmonaires. Et ça, c'est vraiment la base de l'élevage intensif, un confinement intense, des sélections génétiques et une alimentation optimisée.
Et le groupe Avril Maison Mère, l'entreprise Sanders, tente de se justifier, assure que ce système est considéré comme indolore pour l'animal. Pas sûr que ça suffise pour convaincre. Légalisation du cannabis, suite du feuilleton, pas question d'autoriser la fumette pour le plaisir. Le gouvernement ne suivra pas le Conseil d'analyse économique, mais ne ferme pas la porte à une autorisation de la molécule pour traiter certaines douleurs. On passe au sport, le foot, le mondial féminin, et une certitude, cette fois ce ne sera pas du 13-0. Guillaume Batin, vous êtes en direct du Havre, bonsoir. C'est enfin, j'ai envie de dire, le premier gros test pour les Américaines dans cette Coupe du Monde, elles affrontent les Suédoises.
Ouais, il était temps. Les Américaines qui se baladent dans cette Coupe du Monde, 13-0, vous l'avez rappelé, ce score fleuve, ce record face à la Thaïlande pour leur premier match, 3-0 pour le second face au Chili, qui aurait pu faire 6-7-0 sans les exploits de la gardienne du PSG, Christiane Endler. Mais ce soir, face aux Suédoises, les championnes du monde en titre auront beaucoup plus de mal à enfiler les buts comme des perles. C'est l'adversaire rêvé pour évaluer leur niveau avant les huitièmes de finale et les matchs à élimination directe. Elles auront face à elles un groupe équilibré, capable de construire une action offensive à une touche de balle, ce dont les Chiliennes et les Thaïlandaises ont été incapables, des joueuses du même gabarit, grandes et solides, un bloc défensif qui sait élever un mur et résister longtemps face aux assauts des stars, Megan Rapinoe ou Alex Morgan, deux titulaires de nouveau présentes ce soir dans l'équipe de la coach américaine Jill Ellis, car les Américaines vont tout faire pour garder non seulement la tête du groupe F, et surtout effacer de leur esprit la défaite face aux Suédoises en demi-finale des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Leur seule défaite de l'histoire avant les demi-finales dans un tournoi majeur.
Donc ce sera un beau match. Guillaume Batin en direct du Havre, États-Unis-Suède à 21h. On connaîtra aussi ce soir les prochaines adversaires des Bleus pour les huitièmes de finale. Ça se joue entre le Brésil, le Cameroun et la Nouvelle-Zélande. Enfin, tristesse sur la planète électro, des Daft Punk à Laurent Garnier. Le magicien du son Philippe Sdar du duo Cassius est mort après avoir chuté d'un immeuble à Paris. Une enquête a été ouverte et selon les premiers témoignages, c'est le garde-corps du balcon qui aurait cédé.
Hélène Roussel, merci beaucoup. À tout de suite, Hélène, dans Un jour dans le monde.
Ah oui, on ira en Mauritanie, élection présidentielle demain, avec les descendants d'esclaves au cœur du scrutin. Détour aussi par les Philippines, où c'est, tenez-vous bien, la saison de la circoncision. Et puis encore un ours blanc, très loin de chez lui, sa banquise fond, alors il arrive en ville.
Allez, ce soir, il sera donc autour de 18h37, Hélène, quand vous reviendrez. Un peu plus tard même, peut-être. Allez, ce soir, nous sommes aussi avec les Forbidden Stories, les enquêtes des journalistes assassinés qui sont refaites par un consortium de journalistes, notamment la cellule d'investigation de Radio France. Nous irons au cinéma à Bangui, et puis 19h20, le téléphone sonne, des clopes partout, de la moquette au mur, le périphérique terminé, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les années Pompidou? C'est le 50e anniversaire de l'accession au pouvoir de Pompidou, voilà, qu'on parle de ces années heureuses comme un c'était mieux avant qui fleure blond, l'avant-choc pétrolier, la Gauloise, mais vous en dites quoi? Est-ce qu'on fait un lien entre La République en marche et Pompidou ou pas? Est-ce qu'on fait un lien avec ces années-là? Est-ce que c'est là qu'on est en train d'essayer de courir? On voit ça ensemble au 01 45 24 7000.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable.
créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Élodie Calac, le temps est très instable alors.
Oui, des orages en cette fin de journée sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et puis d'autres sur les Pyrénées. Cette nuit, une nouvelle vague orageuse va arriver par les Pyrénées avec beaucoup de pluie et des orages. Demain, ce temps gagnera tout le sud-ouest, le Languedoc, le Massif central, puis les Alpes, avec des pluies marquées, surtout sur l'Auvergne et le Limousin. Des orages parfois forts l'après-midi, de la grêle, du vent. On trouvera quand même un temps calme et ensoleillé sur la Côte d'Azur et sur la Corse, et puis sur les régions de la moitié nord, du nord-ouest jusqu'au Grand Est, en passant par la région parisienne.
Et sinon, quelques températures pour la route ?
7 à 20 degrés le matin, du nord au sud, et l'après-midi, 16 à 25 degrés attendus, jusqu'à 30 autour de la Méditerranée. C'est parfois juste, mais on en profite parce qu'il va faire très très chaud la semaine prochaine.
Allez, super, merci beaucoup Elodie, à tout à l'heure, après 19h.